L'eau municipale aujourd'hui, il y a des pancartes qui ont commencé à être posées cette nuit. Toute la journée, les bénévoles vont s'affairer à poser des pancartes. Ça, c'est partout au Québec, que ce soit à Québec ou encore à Lévis. Vous allez voir des gens mettre des pancartes dans les poteaux. Et il y a des candidats qui vont commencer, ou si ce n'est pas déjà fait, à travailler vraiment fort pour être élus. On a la chance de jaser avec Stephen Blainey, l'ex-ministre du côté conservateur, qui est rendu candidat à la mairie de Lévis. Il est au bout du fil. Monsieur Blainey, bon matin.
Salut, M. Marceau, et merci de m'avoir en onde. C'est un plaisir d'être avec vous autres. Puis comme on n'a pas de troisième lien, j'ai pas pris la chance de venir en auto, mais peut-être la prochaine fois, j'aurais le goût de vous faire une promesse de politicien en partant. Je vais aller vous voir. Puis je pense que ça va être avant qu'on ait notre troisième bouclage périphérique.
Ah, moi, je vais vous dire, M. Blainey, les politiciens qui me font des promesses, je me méfie toujours. Fait que je vais le voir quand je vais le croire quand je vais le voir, comme disait l'autre.
Comme s'ils vont des gens qui disaient « je vais le croire quand je vais le voir ».
Exactement.
Ben, c'est une promesse qui est assez réaliste de dire que je vais être en studio avant le troisième lien. Malheureusement, j'aimerais ça vous dire le contraire, mais ça, c'est pas une promesse que je pourrais tenir, fait que j'irai pas là.
La dette de Lévis est colossale actuellement. Les taxes foncières pour les résidents ont augmenté de 10 %. Lévis a grandi comme pas possible dans les dernières années. J'étais encore là hier. C'est de toute beauté. Vous allez avoir énormément de travail. Il y a des moratoires aussi pour ce qui est des nouvelles constructions, parce que là, on s'est rendu compte que l'aqueduc puis les traitements d'eau potable étaient difficiles. Ça va être une lourde tâche, là, M. Blainey, là, à devenir maire de Lévis pour le prochain 4 ans.
Écoute, nous, ce qu'on propose, c'est un beau défi. Effectivement, vous avez bien cerné les défis. Lévis, il faut dire que Lévis, c'est une ville que le grand regroupement là, des municipalités fusionnées, ça va faire 25 ans en 2027. Ouais. Fait que c'est une ville, bien sûr, bon, on ne remonte pas à 380 ans quand le premier colon a débarqué, mais c'est une ville qui a connu une explosion fulgurante dans les dernières années. Encore hier, les gens me disaient à quel point, ils me parlent maintenant d'un skyline, hein, de tours, de bâtisses en hauteur à Lévis, ce qu'on n'avait pas il y a à peine 10-15 ans, à part quelques bâtiments forts comme le mouvement, celui du mouvement des Jardins. Mm-hmm. Alors, effectivement, et ça crée des pressions énormes sur les infrastructures et la qualité de vie. Vous savez, cet été, j'ai sillonné, la ville, puis j'ai vu des terrains de baseball qui manquaient d'amour. Tu sais, le stade de soccer Georges Maranda, c'est un fleuron, ça, 4 terrains de baseball, mais par contre, nous, une chance qu'on ait eu des bénévoles, parfois, là, pour faire en sorte que les jeunes puissent vivre une belle expérience. J'ai aussi, malheureusement, visité des sous-sols inondés, des jeunes familles, des mères, avec une mère qui avait quatre filles dans son sous-sol, elle venait de finir la rénovation, bang, un coup d'eau, l'eau monte, pas agréable. Puis, bien entendu, vous étiez allé hier, tu sais, la 20, l'autoroute 20, nos artères principales sont très congestionnées. Donc, un mot-clé.
Mais les autoroutes, monsieur Blainey.
Que je suis ingénieur. Ouais. Fait que moi, je vois qu'il y a des
Monsieur Blainey, allez pas trop vite. Les autoroutes, là, ça, c'est pas dans votre juridiction, mais je comprends que vous pouvez mettre de la pression sur le gouvernement supérieur pour accélérer les choses, parce que la 20, ça finit plus, les travaux sur la 20. Ça en est gênant. Mais à Lévis, là, vous allez devoir vous attaquer au traitement de l'eau, vous allez devoir vous attaquer à l'aqueduc. Y a-t-il déjà des plans que vous avez mis en place avec votre équipe? Est-ce que c'est dans vos engagements?
Oui, en fait, c'est que présentement, la problématique qu'on a, c'est dans les deux secteurs où il y a une croissance démographique importante, les stations de traitement des eaux usées sont à pleine capacité, et ça fait en sorte qu'on n'est plus en mesure d'offrir de nouveaux logements à terme pour les nouvelles familles. Bien entendu, c'est un problème, mais ça touche aussi les services de proximité. Tu vois, comme à Pintendre, présentement, il y a une épicerie qui va s'ouvrir, heureusement, mais il y a un projet d'avoir des services de proximité, toutes sortes de et là, malheureusement, comme on ne peut pas permettre le développement, ces commerces-là s'en vont ailleurs, puis on prive, par exemple, les gens de Pintendre de ces services-là de proximité. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir une prévisibilité pour garder Lévis en mouvement, parce qu'évidemment, on a connu une croissance fulgurante, et on veut un peu, je te dirais, quasiment digérer ça, parce que là, les gens nous disent, hey, wow, là, ça, excuse l'expression, comme on dit, ça pète de partout, donc on a besoin de vraiment consolider nos infrastructures, et c'est ce qu'on propose. C'est ça, pour ça, je disais en début de semaine, on n'a pas quelque chose de bien, bien sexy à proposer, mais par contre, je dois dire que je suis impatient de rencontrer les gens du mouvement sportif Lévis tout à l'heure, qui ont un projet pour faire en sorte que nos jeunes puissent bouger, qu'on puisse avoir des activités culturelles et créer de l'activité économique. On parle bien sûr là du projet de Trois Glaces qui a été annoncé, qui est en cours de cheminement. Donc, évidemment, je suis impatient de rencontrer ces gens-là pour voir comment on peut garder notre ville en mouvement, mais de façon planifiée et pas débridée. Puis, vous l'avez mentionné d'entre eux, des comptes de taxes de 10 % là, on va laisser ça en arrière. Nous autres, on regarde en avant, puis on se dit, crime, là, ça coûte assez cher de même. On n'a pas l'intention de se garrocher dans des projets farfelus qui vont faire exploser le compte de taxes.
On va le souhaiter. Mais les usines d'épuration d'eau et tout ça, les usines pour les aqueducs, les eaux usées, c'est-tu compliqué, ça, à bâtir? Puis ça prend-tu des années et des années? C'est quoi les projets à Lévis, justement, pour essayer de justement, à un moment donné, repasser à d'autres choses, puis commencer à bâtir encore à Lévis?
Ben, écoute, essentiellement, dans une ville planifie ses investissements sur 5 ans.
Ouais.
Vous le mentionnez tantôt, Transport Québec, effectivement, les emprises du gouvernement du Québec sont, par exemple, l'autoroute 20, boulevard Marie-Victorin, la route des Rivières. C'est des secteurs où on veut travailler avec le gouvernement du Québec pour faire des boulevards urbains, mais également du côté du traitement des eaux usées, ben ça, c'est dans notre cours. Et on a un plan quinquennal d'environ une enveloppe d'environ 500 millions qu'on prévoit investir au cours des 5 prochaines années pour justement mettre nos installations à capacité. Maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est devancer ces échéances-là pour éviter d'avoir un moment où la ville se prive de revenus pour offrir des services de qualité à sa population parce qu'elle n'est plus en mesure de se développer.
Exact. Monsieur Blainey, vous avez parlé d'entrée de jeu. Il n'y a pas de troisième lien, il n'y a pas de périphérique. Vous allez complètement à l'encontre de ce que la CAQ propose avec son troisième lien. Vous le voyez comment l'avenir de ce troisième lien-là avec un PQ en plus qui est en avance dans les sondages?
Ben, écoute, ce que je vois dans le fond, c'est que la CAQ, il faut dire que son projet initial, c'est un bouclage périphérique. Lorsque M. Legault a été élu, il proposait justement un bouclage périphérique. Il était dans Bellechasse, il parlait d'aller du côté nord-est. Écoutez, nous, ce qu'on dit, c'est que on est en mode écoute, et cet été, les gens nous disent qu'un lien central, est-ce que ça va vraiment améliorer les choses? Je pense que le gouvernement doit nous faire la démonstration de ce projet-là, alors que on sait qu'on a un déficit de liens interrives. Hein? Le pont Pierre-Laporte est à pleine capacité depuis des décennies et, ma foi, il nous sert bien, mais la population a explosé. Donc, on doit avoir des infrastructures qui suivent les besoins. Évidemment, on en parlait, la mobilité, c'est un enjeu important. Donc, pour nous, ça passe par un bouclage périphérique, comme toutes les grandes villes, les grandes artères.
Avez-vous l'intention de vous associer avec Éric Duhaime lors de la prochaine campagne électorale provinciale, compte tenu que vous proposez le même projet que lui?
Moi, je te dirais, je travaille toujours avec les élus. J'ai une excellente collaboration dans ma carrière. Puis je travaille avec les gens qui vont faire avancer notre milieu. Fait que je salue les initiatives, les formations politiques qui veulent être en mode solution, puis aussi qui sont à l'écoute des gens. Parce que j'invite tous les partis politiques de tous les paliers à être en mode écoute, puis pas juste pour les gens de Lévis, les gens de toute Chaudière-Appalaches, les gens de l'Est du Québec, les gens de la Côte-Nord, les gens... c'est quoi l'idée d'amener plus d'autos dans les centres-villes? Tu sais, franchement, on est déjà congestionné. Et pour nous, ce qui est la solution en transport urbain, bien entendu, c'est le transport en commun. Là. Fait que en complément, c'est une vision globale qu'on doit avoir. On doit arrêter d'opposer les projets les uns aux autres. Et
exact.
C'est pour ça, dans ce même contexte-là, qu'on dit, ben là, écoutez, on fait un pont à l'île d'Orléans. Est-ce qu'il est possible d'envisager de le faire à 4 voies et de l'intégrer dans un projet de troisième lien?
Mais là, il est trop tard. Voilà. Je pense que c'est là la semaine passée. Ils sont déjà en train de mettre les ancrages du pont. Il est trop tard pour joindre ce projet-là au projet du troisième lien. Nos ancêtres, M. Blainey, je dis les ancêtres, là, mais avec respect, puis vous n'étiez pas né à ce moment-là, mais dans les années 50, ils avaient décidé...
Ça dépend, j'ai plus 20 ans. Là.
Non, mais vous êtes né en 65 de mémoire, c'est ça?
Oui.
Voilà, mais nos ancêtres, vers les années 40, les années 50, quand ils bâtissaient, ils avaient prévu, je pense que c'est le 1958 le plus loin que j'ai pu retrouver dans les journaux, quand on fait mourir la capitale dans le fleuve Saint-Laurent, à pratiquement l'entrée du pont Pierre-Laporte, bien, on avait dit, on va faire un tunnel à cet endroit-là. Puis de l'autre côté, il y a un super de bel endroit que vous avez à Lévis, Route l'Allemand. Ça pourrait être relié les deux et ça compléterait un bouclage qui, à mes yeux, est parfait. Le maire de Québec veut absolument rien savoir de ce trajet-là en mentionnant que du côté de Beaumont, ben il y aurait, tu sais, il y a de beaux espaces verts, puis il y aurait du développement immobilier, alors que c'est même pas dans sa circonscription, c'est même pas dans sa ville. C'est l'endroit idéal pour faire du bouclage, parce que s'il y a un problème à Québec, s'il y a le gros bordel à Québec, on est capable de passer par l'autre bord, puis pour les gens qui vont vers l'est du Québec, ils n'auront pas à passer par tout le trafic, là.
pense qu'on peut travailler en mode solution, puis vous avez raison. Écoute, il y a des études de Transport Québec qui datent justement des années 70. Là, j'étais au monde. Oui. Je n'étais pas encore ingénieur. Mais effectivement, qui préconise, c'est une solution technique qui est préconisée. On la voit, il y a ce qu'on appelle les autoroutes de ceinture à Paris. Hein. On parle des arrondissements. Bien, c'est le périphérique, les grandes villes européennes, américaines. On parle de ring road, d'anneaux, de bouclage pour encadrer le périmètre urbain. Puis souvent, les urbanistes nous disent « Ouais, mais on veut pas d'étalement urbain. » Mais c'est parce que si on n'encadre pas, on crée pas une zone de densification à l'intérieur d'un périmètre. Puis on se ramasse que Saint-Apollinaire, présentement, est en moratoire au niveau du développement de ses infrastructures. Et on met des pressions énormes sur les municipalités avoisinantes de Lévis, comme Saint-Lambert, comme toute la couronne, je vous dirais, la couronne nord de Bellechasse. Et je vous dirais, donc, nous, ce qu'on veut, évidemment, on veut que ça se développe, mais on veut que ça se développe de façon responsable, puis préserver nos terres agricoles. Alors, dans ce contexte-là, pour nous, le bouclage périphérique, c'est une solution pour encadrer le périmètre urbain et développer le plein potentiel de Lévis. Je le rappelle, Lévis, qui est maintenant la 7e ville en importance au Québec et qui est sur cet élan-là. Alors, on a vraiment des beaux projets. Au cours des prochaines semaines, on a hâte de partager notre vision pour faire en sorte que les gens se sentent, retrouvent le Lévis qu'on aime, un Lévis, je vous dirais, 2.0, parce qu'on est rendu à une autre étape de notre développement. Et maintenant, on est rendu, je dirais, dans la ligue de hockey junior majeur, même on est rendu dans la ligue nationale. Fait que c'est important qu'on ait cette vision-là et que les gens de Lévis se sentent en sécurité et qu'on ait, justement, je reviens là-dessus, le compte de taxe, là. Moi, là, je savais, j'étais un conservateur fiscal. Fait que parlez-moi pas de hausse de compte, de hausse effrénée de taxes. Là, je suis pas là à matin. Maintenant, ben, il faut faire de façon intelligente.
Hey, justement, M. Blainé, je voulais vous parler de hausse du compte de taxes parce que votre adversaire, oui. Mme Isabelle Demers de Lévis Force 10, a mentionné que le compte de taxes n'augmenterait jamais plus haut que l'inflation. Est-ce que vous vous engagez à la même promesse électorale?
Ben, vous savez, je pense que si on faisait un sondage à main levée ce matin, puis on disait, est-ce que tout le monde est d'accord à Lévis pour qu'on gèle, on gèle le compte de taxe, soit tout le moins qu'on limite à la hauteur d'indexation, je vous dirais que c'est raisonnable. Parce qu'évidemment, tout monte, la masse salariale augmente, le coût des intrants. Donc, quand on accompagne l'inflation, dans le fond, c'est à un coût régulier. Fait que je vous dirais, tout le monde est ouvert à ça. Maintenant, je serais pas surpris qu'à la fin de la campagne, toutes les formations politiques disent, on va limiter la hausse de taxe à l'inflation, y compris la nôtre. Comme vous écoutez mon discours, on s'en va vers là. Maintenant, la question qu'on peut poser, c'est comment se fait-il que cette partie-là ait fait en sorte qu'on ait une augmentation de taxes de 7% en une seule année ou 10% sur 2 ans. Fait que là, c'est un petit peu, faites pas ce que je fais, mais faites ce que je dis. Fait que là, nous, je pense qu'il y a une différence entre des promesses qu'on peut pas tenir, des engagements qu'on veut réaliser. Et je vous dirais, moi, je suis dans la catégorie 2. Nous, si on prend un engagement, c'est parce qu'on a la ferme intention de respecter ce qu'on va mettre sur la table. Vous savez, je viens d'une école où on disait, on fait ce qu'on dit, puis on dit ce qu'on fait. Alors, je suis dans ce cadre-là ce matin.
Je ne sais pas si vous avez vu ça en fin de semaine, cette mère de famille qui est passée sur le pont de Québec, une mère de famille de Lévis qui était avec ses enfants, est passée sur le pont de Québec, puis elle a reçu sur sa voiture ce qu'elle appelle une chaudière de roche. Ça a fait un gros bang. Sur le pont de Québec, là, c'est 70 km/h. La plupart des gens sont autour de 80 km/h. Ça aurait pu être une catastrophe. Monsieur Blainé, avant de parler d'un troisième lien, il faudrait peut-être mettre de la pression sur les gens qui s'occupent du pont de Québec pour pas que la rouille tombe sur les véhicules. C'est un non-sens. J'écoutais la porte-parole. J'écoutais la porte-parole de la Société des ponts, là, Champlain et autres, là, qui mentionnait que le pont de Québec était sécuritaire. On le sait qu'il est sécuritaire, puis il y a des ingénieurs très sérieux qui travaillent à savoir si la structure du pont est encore bonne et tout ça, puis qu'il y a des vérifications régulières. Mais là, on me dit que ça prenait 2 ans avant de vérifier l'état du pont de Québec dans son entièreté. Je sais pas, je comprends pas pourquoi il n'y a pas des travailleurs qui vérifient justement est-ce qu'il n'y a pas des plaques de rouille qui tombent sur les automobilistes. Là.
Écoutez, M. Marchoux, je dois vous dire que vous frappez. Vous savez, les gens oublient souvent que j'ai fait 20 ans de génie. J'étais ingénieur civil. À l'université, j'étais membre de la Société canadienne de génie civil. Ils nous donnent même, je ne raconterai pas l'histoire du jonc d'ingénieur qu'on dit qui est fait avec c'est une légende, là, mais avec les débris du pont de Québec. Donc, effectivement, c'est un joyau patrimonial. Oui. La bonne nouvelle, maintenant, quand même, puis ça, il faut saluer le travail de l'ancien ministre Duclos, c'est que le pont de Québec, maintenant, son sort est réglé. Il appartient au gouvernement fédéral.
Oui.
C'est une bonne nouvelle. Mais maintenant qu'il est propriétaire, qu'il nous a promis qu'il allait le peinturer puis l'entretenir, ben là, c'est le temps de se retrousser les manches puis de passer à l'action. Fait qu'effectivement, c'est notre rôle de dire, ben c'est beau, bravo, là, le pont de Québec, il a son propriétaire, il y a les sommes nécessaires pour l'entretenir. Ben là, quand il y a des grenailles qui tombent, c'est le temps de peser sur le piton puis de dire, bon, ben let's go, c'est le temps de se mettre en mouvement pour, justement, là, veiller à son entretien. Mais on peut, et je vous dirais non seulement ça, mais écoutez, je suis soulagé. Puis je pense aussi à un homme de Lévis qui a fait beaucoup pour le pont de Québec, M. Lébreux. Maintenant, ben, c'est le temps de livrer la marchandise du côté de la Société des ponts pour faire en sorte qu'on en soit fier.
M. Blainé, savez-vous comment on fait pour reconnaître un ingénieur dans une foule?
Vous savez ce que ça veut dire, ingénieur ING? On dit que ça veut dire intelligence non garantie. Mais non, je ne sais pas, d'une foule, c'est quoi? Il y a un chapeau blanc?
Comment on fait pour reconnaître un ingénieur dans une foule, M. Blainé? Vous n'avez pas la réponse?
C'est le seul qui, je ne sais pas, qui compte le nombre de personnes qui est dans la salle.
Non,
je sais pas, non?
C'est la seule personne qui vient te voir puis te le dit qui est ingénieur.
Ah, ben ça doit être parce qu'il n'y a pas d'avocat dans la salle.
je fais la même blague aux avocats. Ça a été un plaisir, M. Blainé.
Écoutez, j'espère que je vais pouvoir tenir ma promesse d'aller en studio avant qu'on ait mis en place le bouclage périphérique, mais j'aimerais que l'inverse se produise.
Merci, Stephen Blainé.
Merci. Bonne journée.
Au revoir, Stéphane Blainé, candidat à la mairie de Lévis.
Et ingénieur.
Avec Prospérité Lévis, ils ont 5 engagements. Améliorer la fluidité de la circulation, ce qui ne serait pas une mauvaise chose. Sur le boulevard Guillaume Couture, sur la Kennedy aussi, il y a quelques problématiques à Lévis. Assurer plus de prévisibilité pour un développement responsable. Soutenir les infrastructures sportives, communautaires, culturelles. Gérer les finances publiques de façon rigoureuse. Puis assurer la sécurité dans les quartiers. Mais à ça, moi, j'ajouterais, parce qu'il nous l'a mentionné, c'est une grande inquiétude. Ça, des gens de Lévis, les infrastructures de base, c'est-à-dire usine de filtration d'eau puis usine de filtration pour les eaux usées. Parce que tu peux pas, tu sais, s'il y a des surplus, tu peux pas, techniquement, tu peux pas l'envoyer directement dans le fleuve.
Non.
Faut que tu la traites avant de l'envoyer dans le fleuve ou avant de la réinsérer dans le réseau. Et là, actuellement, Lévis, c'est une grosse problématique pour plusieurs usines. Donc, tu ne veux pas construire une usine demain matin. Là.
Ben non, clairement.
Écoute, beaucoup de boulot.
Il y a un moratoire sur la construction, notamment en raison du fait que l'usine de traitement des eaux, la capacité qu'on a à l'heure actuelle est dépassée. Et là, ben, pour justement améliorer cette structure-là, ça va prendre de 4 à 5 ans. Alors voilà pourquoi il y a un moratoire dans certains secteurs de la ville. C'est clair que c'est une priorité pour les gens de Lévis.
8h36 minutes, vous avez des choses à nous dire. C'est le 418-971-1021, 418-971-1021.
C'est assez beau à la circulation. Je vais prendre le temps de vous mentionner que le pont de Québec sera fermé de demain 6h à dimanche 10h.
Je sais pas, les gars vont-tu monter dans la structure pour donner des petits coups de marteau, faire tomber la rouille en dessous?
Peut-être.
Mais ils n'auront pas le choix, là.
Ils vont peut-être aller faire des petites vérifications, oui.
Mais t'aimerais-tu ça être porte-parole, toi, puis être obligé de dire ce genre de truc-là? C'est-à-dire, bon, on sait qu'il y a une chaudière de roche qui est tombée sur le véhicule là-dedans, mais ce que j'ai à vous dire, c'est que le pont de Québec est sécuritaire. En espérant que l'autre personne dise « Oui, mais là, c'est pas sécuritaire. Il y a de la roche qui tombe directement sur le pare-brise des véhicules qui passent sur le pont de Québec. » Est-ce que ça arrive tout le temps? Non. Est-ce que ça arrive parfois? Ce qu'on nous dit du côté de la société du pont Champlain, c'est qu'il y a quelques plaintes, effectivement, qui sont arrivées dans les derniers mois concernant des morceaux du pont de Québec qui se détachent puis qui tombent sur les véhicules. Ça serait une tragédie, Jeff. Que quelqu'un, un gars, une fille, reçoit ça sur son véhicule, donne un coup de volant, ça s'en va fesser les autres qui sont autour.
Oui.
Parce qu'il y a des autobus qui passent sur le pont de Québec aussi. Ça peut créer énormément de dommages. T'sais, oui, le troisième lien, mais commençons par essayer de mettre le premier lien à Québec, qui est le pont de Québec sécuritaire.
Je suis clairement en accord avec toi. Ça serait une tragédie aussi si jamais il y a un morceau plus important qui se détache, qui te pète un pare-brise, puis que ça fait un carambolage monstre aussi.
Ouais. Puis de ta job, c'est de booker une entrevue avec la porte-parole qui va te dire, même s'il y a une portion de la structure qui s'est affalée sur la route...
Le reste de la structure est correct.
Le pont de Québec est sécuritaire.
Ouais. Bien, c'est parce que dans son ensemble, il est sûrement sécuritaire.
Ben oui, c'est exactement ce que je disais à Pascal Paradis. Dans son ensemble, il est sûrement sécuritaire.
Il est sûrement sécuritaire, mais la problématique, c'est qu'on n'est pas à l'abri qu'il y a un morceau qui se détache.
Exactement. On fait une courte pause, on y va.